Je demande à Monsieur Thierry Jean de rapporter sur le schéma de développement du tourisme local. Monsieur Thierry Jean, vous avez la parole.
Ils sont pas là, monsieur le maire.
Si, si, tu peux y aller. Ils sont là. Vas-y.
Bien.
Les plus sérieux sont là.
Donc, lorsque monsieur le maire m'a demandé de prendre en charge le tourisme dans cette ville, j'ai mené une réflexion qui m'a amené au constat que il y avait eu dans le tourisme à Metz un point de rupture majeur qui était l'arrivée du centre Pompidou. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que avant Metz recevait des touristes sans avoir à proprement parler de politique. Ça veut dire aussi que Metz a accueilli Pompidou, en a tiré les fruits sans forcément optimiser. Et ces deux éléments faisaient qu'il y avait, à mon avis, besoin d'une stratégie et que cette stratégie devait se concevoir en transversalité, c'est-à-dire qu'elle devait impliquer tous les acteurs, toutes les structures qui contribuent au tourisme de cette ville, donc ceux auxquels on pense au premier chef, bien sûr, c'est ce qu'on appelle les professionnels du tourisme, mais aussi tous les acteurs publics et privés qui contribuent à l'attractivité touristique de la ville. Et c'est donc pour cela que il y a maintenant près d'un an, on a lancé cette réflexion qui avait pour objet un diagnostic et de formuler des propositions. Alors, je ne vais évidemment pas détailler tout ce qui a été fait, puisque c'est pas l'objet, mais je vais redonner les grandes lignes. Alors, on a commencé, en termes de diagnostic, par analyser les points forts et les points faibles. Bon, évidemment, le point fort s'appelle Pompidou. Mais au-delà de ça, on a fait un certain nombre de constats qui ont été pour moi des découvertes, et qui le seront sans doute pour un certain nombre d'entre nous ici. On ne sait pas forcément que parmi les 10 sites les plus visités en Lorraine, les 6 premiers sont dans l'aire urbaine de Metz. Et le premier et le troisième sont sur la commune de Metz. Donc sur les 10 premiers sites les plus fréquentés en Lorraine, le premier c'est Pompidou, le troisième c'est la cathédrale. Ça, on pouvait un peu s'en douter. Ce que j'ai découvert avec étonnement, c'est que le zoo d'Amnéville vient s'intercaler entre Pompidou et la cathédrale, que juste derrière la cathédrale, mais il ne faut pas le dire, il y a le casino, que juste derrière le casino, il y a Walligator, et qu'à 2000 derrière Walligator, il y a le Snow Hall, et là, on a fait le tour des plus de 400 000 visiteurs en Lorraine. Et c'est quelque chose d'étonnant, puisque ensuite, on va tomber à 220 000 à Sainte-Croix. On va trouver la colline de Sion à 217 000, Frépertuis à 216 000 et Douaumont à 196 000, et j'ai fait les 10 premiers. Donc on se méprend sur l'attractivité respective des villes en Lorraine. On peut s'étonner, par exemple, qu'on ne trouve pas un seul site à plus de 100 000 sur le territoire de l'agglomération nancéenne, alors qu'il y a 6 sites à plus de 400 000, non pas sur le territoire de l'agglo, on ne va pas refaire ce débat, vous connaissez ma position, mais sur le territoire de l'aire urbaine. Donc il y a derrière ça un véritable enjeu, et d'où la nécessité de mieux capitaliser sur quelque chose sur quoi non seulement on ne capitalise pas, mais que souvent on ignore, et à partir du moment où on ignore jusqu'à nos forces, on ne peut évidemment pas construire une stratégie. Alors, les points forts de la ville de Metz, c'est bien sûr Pompidou, c'est le patrimoine de la ville. Les points faibles, ça reste éternellement l'image de Metz. Cette difficulté à intégrer une culture touristique, on n'est pas une ville naturellement tournée vers le touriste. Une capacité d'hébergement qui est juste du point de vue quantitatif, mais surtout inadapté du point de vue qualitatif si on a une réflexion touristique. Dans l'hôtellerie haut de gamme, par exemple, Metz n'a qu'une hôtellerie d'affaires, n'a pas d'hôtellerie de loisirs. Alors, face à tout ça, quelles sont les opportunités, quelles sont les menaces? Les opportunités, c'est évidemment de constater au niveau mondial un intérêt de plus en plus marqué pour le tourisme de patrimoine, et donc Metz a une carte à jouer, un intérêt de plus en plus marqué pour les lieux de culture. Par contre, à l'inverse, nous ne sommes pas les seuls, loin de là, et les menaces, ce sont évidemment des équipements comme le Louvre-Lens, comme le futur équipement lyonnais, Lens et Lyon ayant en commun d'avoir un avantage sur Metz, et là je souligne un autre point faible, en termes d'accessibilité, nous sommes accessibles lorsqu'on vient de Paris par le train, nous sommes accessibles lorsqu'on vient en voiture, nous sommes moins accessibles lorsqu'on veut venir en train du nord ou de l'est, et nous sommes beaucoup moins accessibles lorsqu'on veut venir en avion. Hein, ça fait partie des points faibles de la ville. Alors, qu'est-ce que de tout ça, il y a eu 7 ou 8 réunions de ce grand comité où il y a une participation et surtout, au-delà de la participation, plein de gens qui concourent au tourisme et qui ne s'étaient jamais rencontrés. Alors, si on peut mettre la première diapo, puisque c'est la... Il a été déduit de cela 4 axes. Qui sont là sur cette matrice. Pardon. Le premier axe, renforcer l'offre et renouveler la destination. Il faut travailler sur le contenu de notre offre touristique. Il y a des choses qui sont mal valorisées, qui méritent d'être mieux valorisées, et ça, c'est notre premier axe. Dans le contenu de l'offre, il y a aussi un dossier qui nous est cher à beaucoup ici dans cette assemblée, c'est le Palais des Congrès, parce que le volet autre point de faiblesse du tourisme, c'est le volet tourisme d'affaires qui est nettement sous-développé à Metz par rapport à ce qu'on pourrait offrir. Donc il y a un certain nombre d'éléments d'infrastructure qu'il faut rajouter, mais aussi de formalisation. Il y a un travail qui est fait sur l'aménagement des berges de la Moselle, qui est au stade de l'étude pour le moment, mais Metz ne valorise pas assez la proximité que nous avons la chance d'avoir avec l'eau. Donc c'est tout ça qu'il y a dans cet axe, renforcer et renouveler la destination. Développer le rayonnement et l'attractivité, c'est toute la politique de marketing. Le rouge, c'est le contenu du produit. Le vert, c'est le marketing, c'est-à-dire comment présenter, comment packager et comment promouvoir, en gros, si je résume. Le troisième, si on tourne dans le sens des aiguilles du monde, c'est le partage de la culture touristique. Il y a aujourd'hui, je le disais dans les points faibles, trop peu d'implications vers le tourisme, et pourtant, tout ce qu'on fait peut contribuer au tourisme. On abordera tout à l'heure un point qui est celui de la nuit blanche. La nuit blanche, c'est un élément d'attractivité touristique extrêmement fort. Mais on va voir se confronter des gens qui contribuent à l'attractivité touristique de la ville sans forcément en avoir conscience. Et donc c'est un travail... soit d'organisation, on peut évoquer, c'est évoqué dans le document qui a été joint, on peut évoquer la création sous une forme à définir d'un cluster touristique, ça peut aussi simplement être un travail d'échange et de gouvernance. Et enfin, pour terminer, observer, mesurer, analyser, il y a aujourd'hui une grande difficulté à mesurer ce qu'apporte le tourisme aux villes en général. Et c'est vrai à Metz comme ailleurs. Il faut à tout prix se doter d'outils qui nous permettent de mesurer les retombées et d'en déduire la manière et les axes qu'il faut choisir pour investir. Donc, autre présentation, si vous pouvez mettre la deuxième diapo. Si vous voulez, dans une logique, dans une présentation un petit peu différente, au cœur, vous avez le produit, son rayonnement. Ensuite, la culture touristique, c'est l'ensemble des acteurs du processus. Et puis, la mesure, tout ça s'articulant, amenant acteurs publics et acteurs privés à travailler ensemble, bien évidemment. Et tout ça formant, quelque part, un élément d'un projet de territoire avec un outil, bien évidemment, un outil parmi d'autres, mais qui est le plus important, qui est bien évidemment notre office de tourisme. Voilà. Donc voilà les grandes lignes. Tout ça sera décliné en un plan d'action qui est en cours d'élaboration par des équipes de la ville, bien sûr de l'Office de tourisme et de l'Agence de développement. Et si vous avez des questions ou des remarques, je suis à votre disposition.
Merci, Monsieur Jean. Qui souhaite prendre la parole? Alors, Monsieur Aldrin, Monsieur Thiel, Monsieur Antoine,
Monsieur Maréchal,
Monsieur Maréchal, Madame Quillot et Monsieur Lebeau.
Lebeau aussi.
Oui, Monsieur Lebeau, Monsieur Fonté.
C'est tout.
Voilà, c'est tout. Alors, Monsieur Aldrin.
Oui, merci, Monsieur le Maire. Alors, je dois vous avouer que lorsque j'ai lu ce document, j'ai été, dans la première lecture, assez séduit. Il faut reconnaître que c'est un document intéressant, bien présenté, même parfois alléchant, avec des propositions où on se dit ça serait quand même intéressant d'avoir ces propositions mises en œuvre. Et puis après, j'ai regardé qui était l'adjoint qui avait la compétence tourisme. Et j'ai vu que c'était Monsieur Jean. Et là, je me suis dit, attention à ne pas se faire embobiner comme avec Metz Métropole Développement. C'est-à-dire, on a de très, très beaux rapports, très bien présentés, où, a priori, énormément de choses sont faites, sont prévues, sont stratégiques. Et
non, c'est bien ce qu'il dit.
Bah oui, c'est la vérité. Et qu'au final, on a pu constater qu'il n'y avait pas grand-chose. Alors, c'est sur le principe louable, mais nous jugeons effectivement sur les réalisations. Et d'autant plus que lorsque je vais entendre un certain nombre de choses dans la présentation de Monsieur Jean, je me dis quand même que soit il n'a pas vu le temps passer, soit il met la poussière sous le tapis sur un certain nombre de dossiers. Il vient de dire notamment le tourisme d'affaires est sous-développé. Mais à qui la responsabilité, sauf à Monsieur Jean qui pendant 4 ans, depuis 4 ans, n'a pas fait avancer d'un iota le palais des congrès? Comment voulez-vous avoir un outil de valorisation de notre territoire et du centre Pompidou, le cas échéant, en se posant encore la question de savoir où est-ce qu'on le localise? Donc le tourisme d'affaires est un élément important et le centre des congrès, malheureusement, on payera cher le retard pris dans ce domaine. Autre point que nous avons déjà soulevé dans ce conseil municipal, la problématique de l'office du tourisme. Il y a celui qui est Place d'Armes, et puis il y a une petite antenne, petite boutique, au fin fond du forum du centre Pompidou, juste derrière les vestiaires. Et puis vous nous avez dit, monsieur le maire, mais si, c'est très bien, c'est dans le centre Pompidou, c'est fort judicieux. Écoutez, j'ai encore fait le test avec des personnes qui ne sont pas de Metz, c'est un endroit qui n'est pas visible et qui n'est pas stratégique. D'où cette proposition que nous vous avons déjà fait par le passé, que nous renouvelons, c'est dans cette problématique du centre des congrès, intégrer une antenne de l'office de tourisme à ce moment-là, pour que la personne qui sort de la gare, qui éventuellement irait dans un centre des congrès et avant qu'il aille au centre Pompidou, ait toutes les informations nécessaires. Je crois qu'on ne pourra pas valoriser avec les ambitions qui sont prêtées dans ce rapport si on ne se dote pas des outils nécessaires. Et puis, il y a quelque chose aussi que nous avons soulevé depuis ces 4 ans et qu'on souhaiterait tout simplement redire. Sur Metz-Plage, je crois que Metz-Plage, dans sa configuration actuelle, ne sera jamais un outil de promotion touristique, sauf à en faire une installation pérenne le long des berges de Moselle, quelque chose qui soit vraiment attractif au-delà des Messins, qui sont quand même le cœur de cible actuel de Metz-Plage dans sa configuration actuelle. Sur la Nuit Blanche, pareil, c'est une nuit, et c'est essentiellement fréquenté jusqu'à 22 heures. Écoutez, moi, j'étais ce week-end à Nancy, j'ai vu un son et lumière remarquable, Place Stanislas, ça dure 3 mois. Ça coûte 300 000 euros, et je peux vous dire que ça, en termes de tourisme, ça draine du monde. Donc, je crois que sur Metz-Plage Nuit Blanche, ce sont des éléments ponctuels qui ne sont pas de nature à s'inscrire dans cette ambition, d'où cette, approbation sur le principe, effectivement, développons le tourisme, et les réserves sur les modalités d'action, puisque c'est sur les résultats et la manière dont Metz, la touristique, se développe que nous jugerons.
Oui, pardon, je n'avais pas entendu. Monsieur le maire et chers collègues, il y a beaucoup entre l'intention et l'action. Jérémy Aldrin l'a dit, c'est vrai que vis-à-vis de ce rapport, Nous étions comme séduits vis-à-vis d'un beau programme qu'on a parfois au théâtre et où ensuite on est déçu par la représentation. Là, on n'est pas déçu par la représentation puisque de représentation, il n'y a pas. En effet, on a très peu progressé sur un certain nombre de choses. Alors d'abord, je trouve, mais ça c'est son habitude à Thierry Jean, dire qu'il n'y avait pas de politique touristique avant le Centre Pompidou, je le trouve quand même assez sévère. Je rappelle quand même que l'Office du tourisme implanté Place d'Armes l'a été par une volonté soutenue, que celui-ci a fait un excellent travail, qu'ensuite il y avait une antenne qui était à la gare de Metz qui a été supprimée pour mettre un bureau au Centre Pompidou qui est invisible. Donc je trouve que c'est tout de même très injuste. Si vous avez bien fait les fonds de tiroir, vous auriez dû y trouver aussi ce qui vous a peut-être inspiré dans le développement des berges et du tourisme fluvial, puisqu'il y avait un projet que Jean-Marie Roche n'a pas voulu mettre en œuvre avant les élections, mais qu'il voulait mettre en œuvre tout de suite après les élections, qui était signé par Jean Martin et qui tendait à développer les berges et à faire un nouveau port, d'ailleurs, à Metz, pour le tourisme fluvial qui a ses partisans. Mais là où je voudrais insister, c'est, alors là je suis d'accord avec Thierry Jean, quand il dit il y a un avant et après Pompidou, et le centre Pompidou est le centre, évidemment, important de toute politique touristique. Alors il a raison, mais je constate aujourd'hui que, mis à part la couverture presse de la presse spécialisée en matière d'art, qui c'est bien normal, 1917 est sans doute, quelqu'un l'a dit, s'il y a une ou deux ou trois grandes expositions exceptionnelles cet été dans le monde, il faut compter 1917 parmi ces deux ou trois grandes expositions dans le monde. Cependant, que fait-on pour en parler à l'extérieur? Nous, on nous avait promis une grande publicité, notamment en direction des Parisiens, sur le plus grand Picasso est à Metz. Pour l'instant, rien. Rien de visible. Rien de visible, chers amis. Rien de visible. Dans le métro, rien de visible. Excusez-moi du peu.
Il faut prendre le métro. Vous
laissez parler Monsieur Thiel. Il ne prend pas le métro, c'est son droit. Bon
les
sang.
Réseaux sociaux, vous laissez me faites rire avec Thiel. Vos réseaux sociaux. Moi, ce que j'attends, c'est de la publicité dans le métro, sur les Champs-Élysées, etc. Il n'y a rien.
Mais si.
Monsieur
oui,
Thiel, Monsieur
Thiel,
Monsieur
Thiel,
continuez.
À peine visible. À peine visible.
Il faut changer de lunettes, alors.
D'autre part. Non, attendez, bon, permettez que, bon, je vous dis rien. Y a-t-il de la publicité à Sarrebruck, à Düsseldorf, capitale des arts, ou à Berlin? Rien. Y a-t-il de la publicité chez nos amis du Grand-Duché du Luxembourg ou de Belgique? Rien. Les Hollandais, rien. Donc, parmi les trois grandes expositions exceptionnelles dans le monde, alors qu'on voit s'afficher des expositions, notamment sur la Grande-Bretagne, etc., là, ça est visible dans le métro, je peux vous le dire, aujourd'hui, sur 1917, rien. Pire, permettez-moi de vous le dire, lorsque M. Seban, qui est un homme charmant et que j'apprécie beaucoup, a été nommé président du Centre Pompidou, alors que d'autres choix auraient pu prévaloir, l'argument a été, et nous l'avons fortement entendu, cela permettra des synergies exceptionnelles entre le Centre Pompidou de Paris et le Centre Pompidou de Metz. Je vous signale, alors là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, j'étais hier au Centre Pompidou de Paris. À part le catalogue qui vient récemment d'être mis en vitrine, avec d'autres, il n'y a aucun panneau qui indique qu'il y a une exposition 1917 à Metz. Pire, le grand panneau qui représentait dans le hall de Pompidou, je suis allé spécialement pour vérifier, parce qu'on me l'avait dit, j'y suis allé hier soir. Le grand panneau qui vantait l'existence même d'un centre Pompidou à Metz et qui a été longtemps dans le grand hall du centre Pompidou de Paris a été enlevé et remplacé par rien, évidemment. Alors, moi, je ne verrai aucun inconvénient à ce que Metz fasse un peu de publicité pour les très belles expositions actuelles du centre Pompidou à Paris. Mais en réciprocité, que là où on traîne quand même des millions de touristes et d'intérêts pour l'art, c'est-à-dire le Centre Pompidou de Paris, il y ait au moins quelque chose sur le Centre Pompidou-Metz. Aujourd'hui, il n'y a plus rien, à part le catalogue que l'on trouve, heureusement, y compris chez certains bons libraires dans la France entière. Je vous signale, c'est peut-être une impression, que l'on parle plus et qu'il y a plus de promotion sur l'exposition prouvée à Nancy qu'il n'y a de promotion sur l'exposition 1917, alors que j'ai la faiblesse de penser, quel que soit l'intérêt de l'exposition prouvée, qui est tout à fait remarquable, que 1917 est quand même encore au-dessus. Alors, ça fait partie, je dirais, du très grand regret. Jérémy Aldrin a dit aussi, tout à l'heure j'ai entendu Thierry Jean dire qu'il fallait compter dans les grandes opérations touristiques la nuit blanche à Metz ou Metz-Plage. Permettez-moi de vous dire que ça, c'est nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Je ne discute pas de l'intérêt de ces opérations, ça c'est un autre débat, on en a déjà parlé, mais qu'on n'estampille pas cela comme étant des opérations d'intérêt touristique. Qui pourrait penser que l'on prend l'avion ou le train pour venir à Metz-Plage, hein? Alors, non, je crois qu'il faut raison garder. C'est une attraction intéressante qui s'adresse au public messin et de l'agglomération messine. À ce que je sache, on ne parle ni à Bruxelles, ni à Luxembourg, ni à Paris de cette opération, ni à Nice. Voilà. Donc, je voudrais que l'on garde quand même raison par rapport aux intentions affichées qui sont tout à fait remarquables, et c'est dans ce sens-là que nous voterons le rapport. Je ne vais pas faire une explication de vote après ça, mais pour vous dire que l'action, en revanche, on ne la voit pas.
Antoine.
Oui, je voudrais intervenir sur à partir du panorama qu'a brossé M. Jean sur les faiblesses. Alors, c'est un sujet qu'on a déjà eu l'occasion d'aborder. Je ne reviens pas sur l'avion. Il a évoqué le problème des dessertes ferroviaires. Il a évoqué le nord et l'est. Évidemment, sur l'ouest, ça marche très bien, mais on ne parle que de ça. On ne parle que de l'ouest. On ne parle que du TGV. Je précise quand même qu'il y a une excellente desserte du nord. On peut venir de Lille à Metz sans... D'accord, mais enfin, on peut déjà aussi raisonner nord de la France ou la Belgique. On peut venir de Bruxelles à Metz sans trop de difficultés. Mais surtout, monsieur le maire, là où il y a un vrai sujet, l'Est va se renforcer dans un... C'est le Sud. C'est le Sud. Et le Sud, c'est un vrai problème pour nous. C'est que moi, j'ai vu des publicités il y a quelque temps sur Metz, venez à Metz, à Dijon, à Lyon, etc., la liaison est quasiment impossible. Donc, je vous suggère de renforcer un peu votre lobbying sur la problématique de la desserte ferroviaire Lorraine vers le sud-est, attendu que nos voisins ont déjà tiré la couverture à eux. À Strasbourg, je rappelle qu'ils ont le TGV Rhin-Rhône et qui va leur permettre d'aller maintenant sur Lyon et Marseille en particulier dans des délais extrêmement courts. Donc là, vous avez, et ça n'apparaît nulle part dans les faiblesses, et je pense que c'est un vrai enjeu, à la fois économique, démographique aussi, et puis aussi sur les aspects touristiques.
Merci, monsieur Antoine. Monsieur Maréchal.
Oui, merci, monsieur le maire. Moi, je voudrais juste faire une remarque s'agissant de la phrase qui est contenue dans le document et qui m'a fait bondir. Page 27, s'agissant du développement d'une offre commerciale adaptée au rythme touristique. Dans la première partie du paragraphe, on parle de favoriser l'ouverture dominicale des commerces. Alors là, j'avoue que je pense que là, ça me pose un réel problème. Je crois savoir qu'il y a eu une nouvelle majorité politique qui s'est mise en place et que dans les changements attendus, il n'y a surtout pas la remise en cause des acquis sociaux. Le repos dominical est inscrit dans le droit local. Il y a, je pense, un très large consensus dans la population de ce département pour ne pas toucher au repos dominical. Et j'ai même entendu des parlementaires venant de zones touristiques qui avaient eu des expérimentations de remise en cause du droit du repos dominical dans le restant de la France, que finalement ça avait beaucoup plus de conséquences négatives pour les populations que de véritables points positifs pour l'activité économique. Tout ça pour dire que le document me semble très intéressant, mais là, il y a une vraie question. Est-ce que la collectivité locale que nous représentons peut inscrire un développement local et dans ce développement local, dans ce document-là, afficher la remise en cause du repos dominical inscrit dans le droit local. Donc là, je crois qu'il faut qu'on précise les choses assez rapidement, de manière à ne pas heurter de front toutes ces salariées, parce qu'elles sont plutôt femmes que hommes, qui travaillent dans le commerce, qui ont déjà des conditions de précarité et de rémunération pas satisfaisantes, et qui en plus se verraient là, au nom de l'activité touristique, remettre en cause un acquis historique de ce département.
Oui, monsieur le maire, chers collègues, alors j'ai lu avec beaucoup d'attention le document de 31 pages, le schéma de développement touristique local. Et si j'ai trouvé en introduction deux pages de chiffres qui sont très intéressants sur la situation du tourisme local, pour le reste, je suis désolée de vous dire que j'ai dû chercher le fond entre formatage et jargon. D'abord, il faut s'imprégner d'anglais spécialisé. Bon, je vais vous en citer quelques-uns. Low cost, ça, tout le monde connaît maintenant. Concept store, city break, city trip, slow food, slow life, roots, corner boutique, cluster de tourisme, Atwood Park. Bon, je m'arrête là. Peut-être que certains de vous connaissent, moi, assez peu. Il faut aussi s'imprégner d'expressions tendances. Hein, le mot est plusieurs fois dans le texte. Alors, des expressions tendances, par exemple, c'est des destinations plus innovantes, plus en avance, qui créent le buzz. Par exemple, page 23, il est question d'attirer une clientèle particulière, le village mondial. Et dans le texte, on nous livre la définition du village mondial telle que je l'ai trouvée en cherchant sur Internet dans un journal d'information de Atout France de l'automne 2010. Alors, bon, vous le trouverez... Page 23, mais je vais quand même le lire. Qu'est-ce que le village mondial ? Ensemble de personnes influentes à divers titres, voyageant fréquemment dans un cadre personnel ou professionnel, vivant au rythme des grandes tendances mondiales et des événements internationaux, ayant des modes de vie comparables et disposant de revenus supérieurs à la moyenne, CSP++. Les habitants de ce village mondial peuvent être issus de n'importe quel pays du monde, mais ont pour trait commun de considérer le monde comme un village dans lequel ils ont l'habitude de se déplacer avec facilité. Je repense au débat que nous avons eu tout à l'heure. Ça n'est pas le cas, bien sûr, des demandeurs d'asile et des gens du voyage. Eux, on ne les considère pas comme les habitants d'un village mondial. En tout cas, ils n'en ont pas les moyens. Alors, bien sûr, toutes les écoles de commerce actuellement formatent leurs étudiants à s'exprimer ainsi. Et les agences de marketing reproduisent à l'infini ces copier-coller dans les documents qu'ils sont chargés de rédiger. Mais bon, dans ce document, moi, j'ai été plutôt navrée par... la lecture d'un texte sans saveur ni odeur, où l'on ne retrouve pas l'âme de la ville, ni ses attraits, ni ses atouts. La ville n'est qu'un produit parmi tant d'autres, et que ce document cherche à prouvoir dans le monde entier, dans des revues spécialisées. Alors, plus prosaïquement, il me semble que si l'on veut vraiment rendre la ville attractive aux touristes comme aux habitants, on parle page 11 de clientèle de proximité, qui est encore un terme, bon, tendance, qui est traduit par « être touriste dans sa ville près de chez soi », ne serait-il pas essentiel de parler de sujets peut-être triviaux, mais terriblement concrets, l'entretien de la ville, que l'on ne trouve nulle part dans le document ? Il est dit, par exemple, page 15, que la déambulation est la première pratique des clientèles touristiques en ville. Or, quelles sont les propositions dans ce texte ? Je cite « créer une signalétique touristique et développer la réalité augmentée », encore un peu de jargon, c'est-à-dire mettre en place de la signalétique, des flashcodes ou des QR codes, des supports technologiques, donner une visibilité numérique, tout ça comme si on faisait une visite virtuelle en planant sur la ville avec des ailes d'ange. Or, il s'agit bien concrètement pour des touristes d'arpenter les rues, et en ce qui concerne l'état de nos rues, je pense qu'il y a de gros efforts à faire pour ne pas générer la déception des visiteurs. Le balisage des travaux, l'accessibilité, le traitement des vitrines abandonnées, la propreté des rues et des berges de nos rivières, et même de nos rivières qui souvent charrient des choses pas très jolies à voir. Alors, par exemple, le samedi matin, qui est un jour de marché très fréquenté par des touristes, on pourrait imaginer de nettoyer le quartier très tôt, y compris le bras de Moselle, la place de la Comédie, son pont d'accès, qui sont souvent pollués par les traces des consommateurs de la nuit précédente. Page 26, on parle de faciliter les synergies, de culture de service aux clients. Pour moi, la question importante, c'est peut-être de mettre en synergie la problématique de la propreté de la ville pour qu'elle soit assurée 24 heures sur 24 par un service dédié. Actuellement, bon, c'est la police qui prend le relais pendant le week-end. Et aussi pour qu'il y ait une campagne de sensibilisation auprès de tous les citoyens de notre ville pour que l'accueil soit amélioré. Bon, cependant, sur le fond, je souligne qu'il y a beaucoup de propositions qui me semblent aller dans le bon sens, en particulier les infrastructures d'accueil bon marché, les résidences hôtelières, l'accueil de qualité pour les camping-cars, l'amélioration des activités de camping. Mais contrairement à ce qui est écrit, moi, je ne suis pas favorable à une relocalisation du camping de Metz-Plage, parce qu'il a l'avantage d'être en centre-ville. Il y a aussi l'hébergement sur l'eau, qui est un beau projet, les points de sanitaire collectifs et l'adaptation de la ville aux personnes en situation de handicap. Donc, bon, pour ne pas reprendre davantage de choses, si ce document est un inventaire de tout ce qui peut s'imaginer pour développer le tourisme dans une ville en plein essor, comme c'est le cas à Metz, il me semble que la question, c'est quels sont parmi ce foisonnement de projets les premiers que vous comptez mettre en œuvre en priorité. Merci.
Monsieur Lebeau.
Monsieur le maire, je vais essayer d'être court et synthétique.
Merci.
Et donc, juste pour dire qu'à la lecture de ce rapport, j'ai eu l'impression d'avoir un inventaire à la Prévert avec des propositions plus ou moins louables et plus ou moins opportunes, que ce qu'il manque pour moi, c'est une cible, parce que si on veut faire une stratégie, il faut qu'elle soit dédiée à une cible, parce que toute population est cible, donc il n'y a pas de stratégie, que je pense que la priorité absolue par rapport aux menaces et à la concurrence, ça devrait être les populations du Nord, Luxembourg, Belgique, Pays-Bas, Danemark, et également sur l'Est, l'Allemagne, qui est très férue d'art contemporain. Et ça ne ressort pas de manière évidente dans ce rapport. L'autre élément, c'est que, au vu des premières années après Pompidou, qu'est-ce qu'on constate ? C'est un manque cruel de coopération fort, et même de coopération entre des structures qui sont dirigés par Metz Métropole, parce que si, dans les 10 sites qu'a cité Thierry Jean, les plus visités, un énorme regret, que je pense que vous partagerez, il n'y a pas le musée de la Cour d'Or. Alors si on a le centre Pompidou et qu'on dans les 10 premiers, on n'a pas le musée de la Cour d'Or, ça veut dire qu'il n'y a pas de synergie qui se fait entre le musée de la Cour d'Or et le centre Pompidou. Ouais. Et mais ce qui peut s'expliquer simplement, c'est-à-dire que si vous voulez acheter un billet, un pass pour le musée de la Cour d'Or, et Pompidou, si vous allez au musée de la Cour d'Or, ils vous disent qu'il faut aller à l'office du tourisme, idem pour Pompidou, ce qui est un peu dommage, parce qu'on peut faire beaucoup plus, idem pour la qualité de la restauration, parce qu'on a eu une mauvaise surprise sur le centre Pompidou, on ne va pas s'éterniser, mais on a une mauvaise surprise, et l'élément, aussi une mauvaise surprise par la signalétique qui a été mise en ville, puisque vous nous aviez dit qu'elle serait trilingue. Bon, je cherche les traductions, c'est un peu dommage. Idem pour pour le musée de la Cour d'Or, tout est en francophone. Et alors, peut-être que c'est votre stratégie qui est d'aller chercher les Parisiens. Moi, je pense que ce n'est pas une bonne stratégie. Quand on ne fait que de la communication sur Paris, je pense que ce n'est pas bon. Je pense que c'est plus facile d'aller chercher des gens qui traversent la ville en allant en vacances. Et donc, la stratégie, c'est aller chercher les Danois, les Belges, les Hollandais, les Luxembourgeois. Voilà, je vous remercie, monsieur le maire.
Merci. Monsieur Fonté.
Merci, monsieur le maire. Je crois que ce rapport, si effectivement, si on le lit comme ça, il peut présenter quelque chose comme un inventaire à la Prévert, mais je crois qu'il arrive à un moment où il s'inscrit également dans la réflexion du projet de ville. Ce n'est pas un document unique, isolé, qui est présenté, mais qui va s'inscrire dans cette réflexion globale que nous sommes en train de mettre en place, et réflexion globale qui, effectivement, ensuite va décliner qu'est-ce qu'on va réaliser à court terme, moyen terme et long terme, et dans les différents domaines de la composition de l'espace urbain, de la ville, qui va toucher à la fois le patrimoine, à savoir les berges de la Moselle, le patrimoine historique, le dossier UNESCO, etc. Tout ça fait partie de la réflexion qui est engagée et des choses qui sont mises déjà en action, puisque le dossier UNESCO a une première concrète, puisque déjà nous avons 3 inspecteurs nommés par le ministère de la Culture pour venir expertiser la faisabilité et la recevabilité de notre dossier au niveau de l'inscription nationale, déjà premier temps, et pour ensuite, à deuxième temps, aller à l'UNESCO. Donc je pense que ça, c'est déjà une démarche. Le label Ville d'Art et d'Histoire, etc., tout ça, ce sont des choses qui sont déjà en route. Alors bien entendu, le centre Pompidou-Metz nous fait entrer dans une nouvelle dimension sur le plan touristique et en termes de communication, à lui tout seul, il nous a quand même fait gagner 20 ans de communication en termes d'image, d'attractivité, etc. Bien sûr, on peut toujours dire que c'est insuffisant. Alors, il ne vient pas sur un désert, on est bien d'accord, puisque cette ville avec la cathédrale avait déjà une certaine attractivité. Et cette visibilité avec le centre Pompidou s'en est trouvée renforcée. Alors, il faut faire attention. On est passé quand même à un nouveau stade et à un nouveau niveau d'attractivité. Je veux dire, quand on a 1 400 000 visiteurs d'année en année, sur une année pleine ou en à Pompidou, ça veut dire quand même qu'il y a du monde supplémentaire qui vient dans cette ville. Donc on ne peut pas s'auto-flageller en permanence là-dessus. Il faut reconnaître aussi cette avancée qui est très importante. Alors bien entendu, il y a certainement des retards à rattraper. Alors, au centre des congrès, on dit 4 ans de retard. On peut dire aussi 37 ans de retard, hein, donc je veux dire de retard. Donc on n'est pas non plus à se jeter les choses dans ce domaine-là. On a un document de réflexion qui est très intéressant, qui s'inscrit dans ce que je disais tout à l'heure, le projet de deal. Et dans ce cadre-là, ce qui me semble important ensuite, parce que quand vous dites il faut avoir de l'ambition, il faut avoir du volontarisme, il faut avoir aussi de l'audace, c'est-à-dire de l'audace au niveau des moyens que l'on va mettre en place. Ce n'est pas la peine de dire on engage une réflexion si à un moment donné, face aux moyens à mettre en place, on bloque. Parce que quand on dit attractivité d'une manifestation internationale, Messine, Nouvelle, etc., etc., ça veut dire quels sont les moyens qui sont mis en place. On parle de communication, renforcement de la communication. Tout à l'heure, on disait qu'on dépensait trop sur la communication. Ben, la communication, si vous voulez, de la visibilité, il faut la payer. Il faut mettre au pot. Donc, il faut y aller. Donc, alors peut-être, on peut me dire, on peut mieux réorienter sur terre chaude, certainement. Mais ceci dit, ça ne suffira pas de réorienter, il faudra mettre au pot, si on veut une visibilité beaucoup plus grande. Ensuite, attention au niveau de compétences, parce que la communication de Pompidou, ce n'est pas la ville de Metz intramuros en tant que telle. Hein. C'est l'agglomération et le centre lui-même, qui a un budget quand même. Il a un budget de 12 millions d'euros, financé à 9 millions et quelques par les collectivités, dans lequel il y a déjà un budget de communication. Il a aussi, lui, à réfléchir à l'utiliser, à la bonne utilisation de cette communication à un moment donné. Donc voilà un certain nombre de choses. Je suis d'accord, et William Schuman l'a souvent rappelé ici, le centre Pompidou Paris ne fait pas le nécessaire pour mettre en avant la visibilité du centre Pompidou Metz. Ça, c'est évident. On le dit, William le rappelle tous les ans, à chaque conseil d'administration, etc. Donc on est bien d'accord là-dessus que les expositions qui sont portées ici ne sont pas mises en avant au centre Pompidou Paris. Par contre, il y a eu quand même une communication peut-être un peu tardive sur 1917, mais elle a eu lieu dans les métros. Et c'est vrai que les pays limitrophes, on pourrait faire mieux. Mais donc voilà, donc à partir de là, sur le plan local, je pense que ce document pose aussi les bases d'un meilleur travail en mutualisation entre culture et tourisme. Alors pourquoi je dis ça? Parce que dans ce domaine-là, nous avons du retard, effectivement, de travail en commun. Et je prends les exemples, excusez-moi, mais de Nantes, Lille ou d'autres grandes communautés urbaines qui ont de l'avance là-dessus, qui ont mutualisé leurs services culture et tourisme pour avoir une visibilité beaucoup plus forte et en termes d'attractivité, de manifestation, etc. Donc ça, c'est un travail de fond à réfléchir, mais encore une fois, qui supposera le moment venu de dire quels sont les moyens qui vont en face, et pas dire on joue petit bras. On ne peut pas jouer petit bras si on a de l'ambition pour le développement. Merci.
Avant de passer à la parole pour répondre à M. Thierry-Jean, je voudrais que M. Schuman dise, puisque c'est lui qui est chargé du go-between entre Pompidou-Metz et Pompidou-Paris, il a déjà interpellé M. Seban sur le sujet qui est évoqué par M. Thiel. M. Schuman.
Oui, merci M. le maire, mes chers collègues. Merci Antoine de rappeler ce que j'ai essayé de faire. Pour répondre à M. Thiel, qui voit bien les choses. Effectivement, je rappelle que cette bâche, la toute première bâche, est la seule extérieure qui a été mise sur le centre Pompidou-Paris, Beaubourg. Je l'ai arrachée, ou plus précisément, j'ai bataillé pour l'avoir. elle n'était pas prévue. Je pense même que j'ai essayé de l'exiger avec l'appui de tous ceux qui ici participent au conseil d'administration. J'ai plusieurs fois insisté aussi qu'il manque un... J'aime pas ce mot-là, hein, puisque nous sommes tous attachés à notre belle langue, mais au phasage entre les deux centres qui ne sont pas, à mon sens, ce qu'ils devraient être. Il est certain que quand on va, encore une fois, à Paris, on devrait savoir ce qui se passe à Metz, et que quand on va à Metz, on devrait savoir ce qui se passe à Paris. C'est une évidence. C'est une évidence. Voilà. Mais je pense qu'il faut du temps. Les choses sont, encore une fois, très, très complexes, difficiles. Ça demande beaucoup de diplomatie. Quand on veut gagner, eh bien, il faut aussi... Il faut aller lentement, mais ce message commence à être compris, me semble-t-il, par le président de ce banc, mais j'aurai plaisir à le lui rappeler, puisque je pense que c'est ici tout le conseil d'administration, enfin, le conseil d'administration, le conseil municipal qui soutiendra le conseil d'administration dans cette demande. Je vous remercie.
Alors, monsieur Jean.
Oui, ben, je voudrais remercier tous les intervenants pour leur contribution. En fait, si j'ai compris, la seule grosse connerie du truc ne m'incombe pas, elle incombe au maire, il n'a pas choisi le bon adjoint pour s'occuper du dossier. Mais ça, j'y peux rien, c'est lui. Voilà. Pour le reste, bon ben... Il y a beaucoup de choses qui ont été dites et que je partage. Je ne vais pas revenir sur Pompidou, mais c'est vrai. Hein, qu'on nous sollicite au mois de février pour faire une com en avril, et alors que nos budgets, ben, ils fonctionnent au rythme que vous connaissez bien. Hein, ça, c'est et qu'on nous mette devant le fait accompli en disant on n'a pas de sous pour communiquer. Antoine Fonté l'a dit, William Schumann l'a dit, on l'a pas bien vécu, c'est clair. Et qu'on se mette autour d'une table pour en discuter, oui, mais peut-être ce serait mieux en octobre de l'année d'avant. Hein, ça permettrait d'anticiper un peu. Par contre, il y a eu quand même 150 phases de 4x3 dans le métro. Alors, je regrette vraiment qu'on n'ait pas mis dans les stations qu'emprunte M. Thiel. Mais je veillerai à ce qu'il en soit autrement la prochaine fois. Hein, vous me direz, M. Thiel, où est-ce que vous prenez le métro? Où est-ce que vous descendez? Et je vous jure qu'on en mettra, c'est promis. Pour le reste... L'office de tourisme à Pompidou, c'est pas une réussite. Hein, on serait de mauvaise foi si on vous disait qu'on pense le contraire. Et on réfléchit aujourd'hui à une localisation de l'office de tourisme, évidemment dans le Palais des Congrès, mais voire plutôt ailleurs. Hein, plutôt en deux mots, hein, voire ailleurs provisoirement, parce que. Non, la gare marchait pas non plus. Hein, si à l'époque, c'est vrai, Richard me le souffle parce que c'est lui qui était en charge du dossier à l'époque. On n'a pas trouvé le bon mode de fonctionnement. On le cherche encore. Je rejoins évidemment notre ami Antoine sur la liaison sud. C'est quelque chose d'essentiel. Il y avait ce matin une conférence métropolitaine du Sillon Lorrain. C'est un des points qui a été évoqué en conclusion. Hein, et voilà, si vous connaissez quelqu'un à la SNCF, me souffle Richard, n'hésitez pas à faire valoir vos arguments. Le musée de la Cour d'Or, loin de Pompidou, oui, c'est très décevant quand on regarde les chiffres des musées, de découvrir que... Alors, je ne prendrai pas que celui... Le musée de la Cour d'Or, progresse. Le musée Lorrain et le musée de l'École de Nancy sont en 800 visiteurs, c'est-à-dire qu'ils sont tous entre 46 500 et 47 200. Donc on est vraiment sur une norme très décevante quand on connaît la qualité de ces musées. À Nancy, seul le musée des Beaux-Arts fait le double, hein, il fait 98 000. Mais sinon, bon, les musées apparaissent plus... ces musées-là apparaissent plus rébarbatifs, plus difficiles d'accès que des choses ultra-médiatisées comme Pompidou. C'est une donnée. Et je terminerai sur un point qui me paraît essentiel et qui a été souligné par Antoine Fonté. Il est clair que on doit créer des habitudes de travail qui n'existent pas assez, et là je mets personne en cause, mais le travail qui a été fait, il y a un travail absolument remarquable qui a été fait pour obtenir le classement de Metz en ville d'art et d'histoire. Ce travail-là, il a été fait par le service patrimoine culturel, donc sous la responsabilité de mon collègue Fonté, mais il est évident que c'est un outil fabuleux au service du tourisme. Il est évident que ces choses-là doivent être mises en synergie. Il est évident que le label... Bon, l'UNESCO, c'est pas demain, hein, on voit bien... Mais même aller vers, Hein, c'est comme l'utopie qui est une étoile, peu importe qu'on l'atteigne, ce qui importe, c'est le chemin. Hein, et bien là, c'est un peu pareil. Il faut qu'on travaille tous ensemble pour vendre notre ville. Elle le mérite. Pompidou est un élément absolument extraordinaire de promotion de la ville, mais la chance que nous avons par rapport à d'autres qui attendent ce genre de projet, y compris dans les mois qui viennent, eh bien, c'est qu'on a une ville exceptionnellement riche. Ça nous est toujours répété. Ça prouve que ça ne se sait pas assez. Voilà, je vous remercie.
Bien, eh bien, écoutez, je vais mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention.
J'ai posé une question, je n'ai pas eu de réponse sur le travail du dimanche.
Je vais répondre, j'ai oublié, excuse-moi. Le problème de l'ouverture dominicale lorsqu'on parle de tourisme, c'est que, de toute façon, quoi qu'il arrive, il y a des gens qui travaillent le dimanche. La question est de savoir qui travaille le dimanche. Alors, c'est clair que lorsqu'on dit les restaurants ne sont pas ouverts le dimanche, ou si on dit faut ouvrir les restaurants le dimanche, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont travailler. Donc, des gens qui vont travailler le dimanche. Les boulangeries sont ouvertes le dimanche, les hôtels sont ouverts le dimanche. Alors, la question, oui, et la SNCF, les péages, il y a tout un tas de... Il y a des gens qui travaillent le dimanche. La question est de savoir où on s'arrête. Moi, je suis frustré parce que lorsque la dernière loi qui a parlé d'ouverture dominicale a autorisé, dans certaines conditions, l'ouverture de certains métiers dans les communes touristiques, je suis simplement dérangé par un alinéa qui a été rajouté. Je crois que c'était un amendement, mais Mme Zimmermann pourra me le dire. Je crois que c'était votre collègue Sarguminois qui avait poussé dans ce sens-là pour dire que le texte ne s'appliquait pas dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Donc, je crois que la réflexion mérite d'être ouverte. Moi, j'ai laissé écrire cette chose-là parce que ouvrir le dimanche, ça ne veut pas dire que tout est ouvert le dimanche. Ça ne veut pas dire que tout est ouvert le dimanche toute la journée. Ça veut dire que autant il y a des services qui par nécessité fonctionnent le dimanche, on évoquait les transports, peut-être une stratégie touristique doit-elle tenir compte du fait que souvent il y a un dimanche dans le week-end et que les gens qui sont quelque part le dimanche, eh bien ils ont aussi envie de pouvoir rentrer. Alors sinon faut aussi fermer Pompidou, faut aussi fermer d'autres lieux où il y a des gens qui travaillent. Hein? Le débat dépasse le problème touristique, mais je voulais simplement dire pourquoi j'ai laissé ce point. Je crois qu'il mérite d'être débattu. Moi, je pense que l'ouverture du dimanche, l'ouverture dominicale est quelque chose qui doit être traité avec une très grande prudence. Et là-dessus, tout le monde est d'accord, à part quelques sauvages de la grande distribution qui veulent rentrer en force. Moi, tous les élus que je connais, de droite comme de gauche, hein, qui sont habituellement pas forcément des gens modérés, sont extrêmement prudents. Hein, j'ai eu l'occasion d'en débattre, y compris avec quelqu'un qui pense à peu près rien comme moi, qui s'appelle Christian Jacob, et on s'aperçoit que même lui, il est pour une fois sur ce dossier très nuancé, hein, c'est pas peu dire. Donc ça prouve simplement que le débat se doit d'être engagé. Il faut pas de dogmatisme, à mon avis, ni dans un sens ni dans l'autre, et il faut y réfléchir. C'est tout ce que je préconise.
Merci. Alors, on est en train de voter. Monsieur Maréchal, vous avez votre réponse? Abstention. Alors,
je vais être cohérente avec moi-même. Effectivement, moi, je remercie Monsieur Marshall d'avoir soulevé cette question. Et vraiment, j'ai voté contre le travail du dimanche. Et alinéa ou pas alinéa, ce n'était pas du tout un amendement. C'était pour que les Alsaciens mosellans acceptent la loi. Je suis profondément opposée à cet aspect-là. Je suis cohérente avec moi-même. Je m'abstiens parce que je l'ai voté, cette loi. Je n'ai pas voté cette loi à l'Assemblée. Donc là, je suis cohérente avec moi-même. L'alinéa là n'était pas utile. Voilà.
D'accord. Donc il y a deux abstentions, c'est ça? Trois, quatre. Alors, il y a quatre abstentions. Et je vous remercie. Ben, les autres sont pour. Je vois, il n'y a pas de contre? Eh bien, écoutez, les autres sont pour. Donc, c'est adopté avec quatre abstentions. Je vous remercie.